Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi,
Bonjour et bienvenue pour la deuxième émission de l'année 2025 de Cinérama, votre émission hebdomadaire sur le cinéma, avec parfois des blind tests et puis parfois des interviews. Et aujourd'hui, ce sera une interview, celle de Agnès de Sacy, qui est avant tout scénariste, mais qui a réalisé son premier long métrage, La fille d'un grand amour, film avec Isabelle Carré et François Damiens, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Nous n'avons pas vu le dernier film d'Almodovar, mais nous avons vu d'autres films. Toi, Sophia, tu as vu un film chinois.
Oui, effectivement, Vincent, il s'agit de Tout ira bien, quatrième long métrage de Ray Young.
Et puis toi, un film britannique.
D'Andrea Arnold, Bird.
Et puis toi, deux films, Guillaume.
Oui, moi, j'aurai L'amour au présent et puis le dernier, voilà, c'est Gros mythe.
Mais avant d'entamer ce sommaire, on revient un peu sur l'année 2024.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, ça une blague ou quoi?
Alors n'en déplaise à Manu qui la semaine passée a commencé l'année en disant eh bien, tout le mal qu'il pensait d'Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, eh bien, ce film a pris sa revanche sur Anora, le vainqueur de Cannes, dont je pense le plus grand mal. Emilia Pérez a obtenu ces derniers jours donc 4 Golden Globes, meilleure comédie ou comédie musicale, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur film en langue étrangère et meilleure chanson. Et il pourrait aussi rafler quelques Oscars. Alors il part plutôt favori pour cette compétition. En revanche, dans les salles françaises, eh bien, la comédie musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant n'a attiré qu'un peu plus d'un million de personnes. C'est la 31e place du classement de l'année. Alors c'est moins bien que Chien et Chat que tu as vu, Manu, ou que Cocorico. Les films français s'en sortent très bien. C'est ce qui est plutôt rassurant, hein, c'est qu'il n'y a pas que des comédies, mais aussi un film fourre-tout comme L'amour ouf dans le top 5 ou un thriller historique comme Monte Cristo. Et autre point positif, l'affluence dans les salles a légèrement augmenté. Vaiana 2 n'y est pas pour rien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette année 2024 qui est définitivement refermée. Nous passons maintenant eh bien, au gros mélo du début de l'année. C'est L'amour au présent.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Vous, quel sont, vous savez où il est?
Ça, j'en ai aucune idée.
Je suis désolé, mais est-ce qu'on se connaît?
Oui, non. C'est moi qui vous ai renversé. Désolé.
Ben oui Vincent, quoi de mieux que de célébrer l'amour pour bien commencer l'année? Ben c'est ce que c'est justement le temps du renouveau, de l'espoir et des sentiments ben que l'on espère florissants et surtout positifs. Alors la nouvelle année cinématographique nous propose de commencer avec tout ça hein, et elle convie ben, tout ce qui fait le sel de ce genre de production dans L'amour au présent ou We Live in Time en version originale. Alors on le comprend, hein, on est donc sur une histoire d'amour mais aussi de temps, hein, ce que le 7e art a su régulièrement conjuguer ensemble.
Au fait, je m'appelle Almut.
Tobias, je ferais bien d'y aller.
Pourquoi?
Que ça nous plaise ou non, le temps presse.
Où est l'urgence?
Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une possibilité très nette et très réelle que je sois sur le point de tomber amoureux de toi.
L'amour, c'est un sujet qui se frotte au temps, hein, qu'il soit positif ou négatif. Il y a bien sûr le chef-d'œuvre « Quelque part dans le temps » hein, de Jeanne Hosework, hein, adapté du magnifique roman de Richard Matheson, où Christopher Reeve va tomber amoureux du portrait d'une femme du passé et par la force de son esprit et de son cœur, va réussir à la rejoindre et à vivre une passion essentielle avec elle. Il y a aussi « Il était temps hein, » de Richard Curtis, où un jeune homme qui fête ses 21 ans, Tim, découvre que les hommes de sa famille ont le pouvoir de voyager dans le temps et il va user de ce pouvoir pour tomber et retomber amoureux avec Marie, hein, jouée par Rachel McAdams. Toujours avec Rachel McAdams, hein, il y a aussi le « N'oublie jamais » de Nick Cassavetes, hein, mettant en scène Ali, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui vit en maison de retraite, et Noah qui, ben, chaque jour, lui lit le même livre. Alors il s'agit du carnet hein, où Ali a consigné sa propre histoire lorsqu'elle a appris sa maladie. Alors pour ne pas oublier ses sentiments, elle a écrit et Noah, inlassablement, lui relit ses propres mots. L'amour au présent est un peu une synthèse de ces deux films, hein, puisqu'il raconte l'histoire de Tobias qui, un soir d'errance et de désespoir, est renversé par Almut hein, qui va l'amener aux urgences. Commence alors une histoire d'amour qui semblerait ben, comme les autres, mais qui va être frappée du syndrome Love Story, hein, le classique d'Arthur Hiller. Almut va tomber malade, très malade, et le déclin va entraîner avec elle ben, toutes sortes de réflexions sur la vie, l'amour, hein, ce que l'on laisse derrière soi et à ceux que l'on a profondément aimés.
J'ai pas envie de suivre un traitement qui va nous faire perdre du temps.
Pourquoi tu prends ce risque ?
Parce que je veux pas qu'on oublie.
Je suis coupable d'avoir regardé trop loin. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux, au lieu de regarder toi.
L'amour, c'est de ne jamais avoir à dire qu'on est désolé, nous disait fièrement Love Story. C'est le cas de l'amour au présent, hein, car Almut ne devient pas hein, que la compagne de Tobias et la mère de leur enfant. Elle est aussi une chef qui a une carrière en plein essor et veut aller carrément remporter le Bocuse d'or. Elle va donc devoir hein, faire des choix entre sa santé, dissimuler certaines activités fatigantes et contraignantes à Tobias, qui va bien évidemment très mal le prendre, car il ne comprendra d'abord pas comment on peut faire passer sa carrière avant sa famille. La réponse est bien sûr dans le film, mais c'est sur ce point que l'amour au présent apporte un peu d'eau au moulin des films précités et ayant en règle générale bah, brillamment parlé de ce sujet, hein, bah, c'est qu'il aborde la question de ce que l'on va laisser derrière soi en tant qu'individu, pour les autres certes, mais aussi pour soi. L'amour au présent hein, amène une réflexion assez intéressante sur la postérité et les conséquences de nos actes, sur ce qu'il signifie hein, dans l'insignifiance d'une vie parmi mille autres hein, depuis le début de l'humanité et sur ce qu'ils disent de nous. Il faut savoir s'affirmer, savoir qui nous sommes et donc ne jamais avoir à dire qu'on est désolé d'être soi. Le film use hein, ce topos du temps hein, pour mettre en scène ce que l'insignifiant dont on parlait plus tôt est littéralement ce qui constitue bah, le quotidien et la force d'un couple qui s'aime et en fait, bah, la seule chose qui fera qu'il marchera ou non. Alors à l'heure des réseaux sociaux, du tout immédiat, grâce à nos multiples vies numériques et au côté éphémère de nos passions, bah, c'est un message toujours pertinent. Le choix de la mise en scène de morceler le film dans le désordre ajoute artificiellement une forme de suspense hein, à une histoire toute simple, là où un Boyhood hein, de Richard Linklater hein, jouait justement sur le long terme dans tous les sens de sa confection, pour recréer ce quotidien précieux et suffisamment romanesque en soi pour nous émouvoir. Alors c'est bien sûr un peu triste, hein, jamais vraiment transcendant, mais ce n'est pas non plus hein, la pire des façons de commencer l'année, surtout si vous voulez vous déplacer en salle avec votre aimé.
L'amour au présent est présent eh bien, dans 350 salles à peu près. C'est aussi le cas de Bird d'Andrea Arnold, dont le distributeur ou les autorités hein, préviennent que plusieurs scènes brutales, dont une très réaliste de violence conjugale, sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Eh bien, on va en savoir plus avec toi, Manu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Ce n'est pas la première fois que le cinéaste britannique Andrea Arnold s'intéresse à la vie animale, hein, que ce soit de façon allégorique, hein, comme dans Fish Tank, ou frontale, comme dans son précédent film, documentaire contemplatif sur le quotidien des vaches. Alors, dès l'ouverture de Bird, hein, elle poursuit cette veine documentaire, hein, même si c'est bien une fiction, dans un style bah, brut de décoffrage, braquant sa caméra, souvent à l'épaule, hein, sur sa jeune héroïne, Bailey, 12 ans, garçon manqué, hein, qui aime la solitude, une sorte d'anomalie au cœur d'un loom prolétariat miséreux. Alors elle vit dans un squat avec son père, qui a moins de 30 ans, Bug, son demi-frère de 14 ans et sa future belle-mère qui débarque avec une petite fille. Alors ce père immature, pour financer son mariage, s'est entiché d'un crapaud dont la bave est censée sécréter un puissant hallucinogène. Alors ce qui nous vaut donc par ailleurs quelques séquences très drôles où pour arriver au résultat, hein, il faut faire écouter au crapaud bah, un morceau de musique pour le détendre. Enfin, un morceau qui lui plaît, même. Voilà, alors ce petit monde est observé sans une once de misérabilisme, hein, malgré la dureté du contexte et l'environnement déprimant. Andrea Arnold réussit d'emblée ben, ce portrait d'un petit groupe de déclassés par son approche très réaliste, sans complaisance ni édulcoration, hein, comme souvent dans le cinéma anglais, très attentif aux personnages et aux lieux. Elle pourrait se contenter donc de ce petit drame social en évitant de prendre le moindre risque, mais rapidement, à mon grand soulagement d'ailleurs, hein, le film bifurque et emprunte une voix singulière. En effet, Bailey rencontre Bird, un jeune homme étrange vêtu d'un kilt qui se déplace bizarrement comme s'il venait d'une autre planète. Le spectateur a évidemment une petite longueur d'avance sur l'adolescente qui va s'attacher à ce drôle d'oiseau au point de l'aider à retrouver ses parents.
Who do you mean?
Oh, you gotta ask me when you do stuff like this.
You ask me about getting married?
Because I'm an adult. You're fucking 12.
So what?
Dès lors, le film trouve son rythme de croisière, évolue sur un registre plus doux, plus solaire, s'échappant du bitume pour s'élever dans les airs et dans les champs. Il n'abandonnera pas le réel pour autant. L'existence de Bailey est quand même très dure entre son père immature et sa mère qui ne l'élève plus, préférant s'enticher de sales types violents et dangereux. D'où voilà, ce qui a été l'avertissement. Et il y a effectivement une scène qui est assez très, très violente. Mais il s'aventure du côté de la fable morale dès l'apparition de Bird, sorte d'ange gardien pour la jeune fille. Cette greffe entre le conte initiatique et le drame social s'équilibre parfaitement au point que les incursions fantastiques ne paraissent pas incongrues. Si le destin de Bird semble trop fléché, la manière dont le récit se déploie est en revanche très singulière, jusqu'à un climax étonnant. Il faut souligner la performance de l'acteur, Franz Rogowski, qui prête son physique atypique à Bird. Il a d'ailleurs un bec de lièvre, ce qui rend déjà son physique vraiment assez étrange. La manière d'ailleurs aussi de se percher en haut des immeubles rappellera à certains le Birdie d'Alan Parker. Alors les plus cinéphiles ne manqueront pas aussi de comparer Bird à Caisse de Ken Loach, dans lequel un garçon, pour fuir un quotidien difficile, noue une relation intime avec un faucon. Sauf que la cinéaste délaisse, contrairement à Loach, le naturalisme et le pathos, le côté très mélo même, pour nous emporter dans son univers hybride, touchant et malicieux, où elle joue avec les ruptures de ton et les échappée belle, telle cette magnifique séquence où Bailey emmène ses frères et sœurs à la mer.
I'm Bird. Who are you?
It's none of your business. I don't care about your dream.
What do you mean you don't care about my dream?
You don't care.
It's beautiful, isn't it?
What is?
Who you love.
The bay.
La mise en scène heurtée à fleur de peau, portée par une excellente bande-son, si on goûte la pop anglaise, et une appétence pour les couleurs vives et saturées, est au diapason de son sujet casse-gueule, traité avec beaucoup de sensibilité et de retenue. Alors la direction d'acteur est remarquable, d'une harmonie totale, où il est difficile de distinguer les acteurs professionnels des débutants. Nikia Adams est parfaite pour sa première apparition à l'écran, tandis que Barry Keoghan, qui joue le père de Bailey, campe un prolotrage plus vrai que nature. Alors peuplé de signes et de symboles, Bird s'impose comme une réussite pour commencer l'année, une fable allégorique qui ouvre un imaginaire parfois convenu mais très émouvant. Alors on peut lui reprocher une forme d'évitement dans la façon de traiter la violence, mais le regard de la cinéaste se trouve ailleurs, dans un désir utopique de donner de l'espoir à ses personnages. Et finalement, c'est très beau, et en dépit d'une séquence qui est très dure, très violente, mais elle en fait autre chose en fait.
Alors tu parlais de Ken Loach, tu faisais cette comparaison.
Ah ça ressemble un petit peu à Caisse.
Et ce qu'on entend effectivement aussi, c'est l'accent un peu rude, mais un accent britannique d'une région je ne sais pas laquelle. Mais ce qui est aussi présent aussi chez Ken Loach et qui est très peu présent finalement dans le cinéma français, c'est-à-dire mettre en valeur la particularité d'une région. Là, je l'entends notamment dans la bande-annonce. Nous parlions de Bird d'Andrea Arnold en salle depuis le début de l'année. Allez, maintenant, c'est l'interview de cette émission. Un couple qui s'est aimé passionnément et qui se voit rabiboché par leur fille.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Un vent à ne pas sortir dehors dans les vignes du Roussillon et deux personnages qui foulent le sol, deux personnages qui se sont aimés il y a longtemps et qui ont une fille qui, un jour, pour les besoins d'un documentaire de fin d'études, leur demande de parler de leur rencontre, de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Et c'est pour cela qu'on les voit à nouveau ensemble. Le projet de leur fille nous les dévoile et les dévoile à eux-mêmes. Tel est le schéma de la fille d'un grand amour d'Agnès de Sacy, dont c'est le premier film. Alors, elle est connue pour être scénariste depuis de longues années, notamment pour Valeria Bruni-Tedeschi, la fait notamment le scénario des Amandiers, ou Pascal Bonitzer. Elle a fait aussi le scénario de Noé et moi, de Zabou Breitman, ou encore On 6, ce film sur le convoyeur de fond qui a volé la cargaison qu'il transporte, et donc des genres bien différents. Pour son premier film, c'est le genre de la romance qu'elle emprunte, une romance travaillée par la nostalgie, mais aussi par le discours, un film patient, sans être explicatif, qui dévoile des paradoxes, des zones d'ombre, et parsème aussi le film de quelques drôleries. La première est ce que racontent les deux parents sur leur rencontre. Leur souvenir n'est pas du tout raconté d'accord. Alors ça, c'est très étonnant. Anna, donc, est une femme qui se veut indépendante, volontaire. Elle est interprétée par une solaire Isabelle Carré. Et elle retrouve en face d'elle celui qu'elle a aimé passionnément, mais qui vit, lui, sans passion. C'est Yves, un François Damiens un peu à contre-emploi, toujours un peu distant, vaguement mélancolique, prêt à plaquer son poste de financier pour reconstruire une histoire avec celle qu'il a tant aimée. La réalisatrice tisse un récit dans lequel les raisons de la désunion sont dévoilées, notamment la propension d'Yves à refouler son homosexualité, mais les raisons du remariage, car il est bien question de ça, restent également un tantinet mystérieuse. Il n'y a pas d'ailleurs que les mariages d'amour, nous explique Anna, un amour arrangé peut valoir autant le coup. Se focalisant sur les sentiments, sur ce que les deux personnages ont vécu, ont à se dire et à vivre à nouveau, La fille d'un grand amour est un film qui s'incarne dans la tendresse, qui se repose sur le jeu de ses acteurs, sur la patience du spectateur et son attention et qui livre également quelques moments de mise en scène qui font mouche. Nous écoutons Agnès de Sacy rencontrée au Festival du film méditerranéen de Montpellier.
Au moment où je t'enregistre là, d'accord ?
Bah non, je sais pas si je suis d'accord.
Ça sortira pas de l'école. C'est le thème, filmer ses parents.
Et qu'est-ce que tu veux savoir ?
La première fois que tu l'as vu. La première image.
En fait, il part, et tout le monde ne le sait pas forcément, d'un documentaire que moi j'avais réalisé il y a une trentaine d'années, effectivement sur mes parents, comme ce qui est raconté au début du film. J'étais moi-même en sortie d'école de cinéma, de la FEMIS, et le documentaire a eu les conséquences, effectivement, comme c'est raconté dans le film, de les faire se retrouver, se rapprocher et se remarier. Cette histoire-là, à plusieurs reprises, on m'avait dit « tu devrais l'écrire ».
Il était très grand, l'imperméable était blanc, et il avait des yeux clairs.
On s'est regardé, et là, toc, il s'est passé quelque chose.
Pour faire un beau feu, tu te souviens ?
Après, moi, j'ai pas mal travaillé, sur, notamment avec Valeria Bruni-Tedeschi, sur ce qu'on appelle des autofictions imaginaires ou des autobiographies imaginaires. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il n'y a pas d'élaboration, et si, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas récit. On cherche une vérité qui n'est pas une vérité des faits, mais une vérité romanesque. Une puissance, en tout cas des élans et une sensibilité des personnages qui, au bout d'un moment, s'éloignent, en fait. C'est très étrange, dans les étapes d'écriture, s'éloignent. Et ensuite, au casting, des originaux. C'est-à-dire qu'on oublie, moi, effectivement, il y a un point de départ très fort qui est ce documentaire, qui est l'histoire de mes parents. Mais moi, en vérité, la fille, après le documentaire, je sais qu'ils se sont retrouvés, mais je ne sais pas du tout comment. Je ne sais pas comment leur dispute était, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés. Ma mère n'a pas du tout fugué la nuit du mariage. Donc il y a deux points de vérité, disons, assez strictes, vérité historique presque, grande vérité historique et historique intime, qui est une fille qui fait un documentaire sur ses parents et les paroles qu'ils prononcent, les acteurs, sont vraiment au mot près retranscrites des paroles prononcées par mes parents. Et beaucoup plus tard, l'histoire effectivement du docteur, l'histoire qui va être écrite et rejouée, le flashback, l'histoire du docteur Vian que Yves, à 17 ans, va voir.
Pour être fou ou amoureux, t'as l'air d'aller bien en tout cas.
Mais Yves, c'est pas moi qui allais mal.
L'amour, qui n'ose pas dire son nom, est aussi fort qu'un autre. Et tu veux qu'on se remarie ?
J'ai essayé une forme de douceur, comme si, plutôt comme des strates, comme si effectivement des glissements d'une strate à une autre, et qu'effectivement à chaque fois, on avançait un peu plus profondément dans quelque chose évidemment de l'intimité de ces deux êtres, et dans la compréhension presque de cette chose presque incompréhensible et qui est pourtant réelle, qui est qu'ils s'aiment passionnément en réalité. Et c'est-à-dire que ils le disent à un moment dans la scène, c'est-à-dire je pense qu'ils ont la nostalgie de l'intensité de leur amour dans les premières années et que malgré toutes les années passées, ils ont l'impression que ça a été, il le dit à l'écran, il le dit au micro de sa fille, etc., le personnage de Yves, que c'était des moments où on a l'impression que chaque seconde de sa vie, qu'on vit chaque seconde de sa vie pour vraiment quelque chose, qu'il y a une sorte de... C'est comme un diamant brut, en fait. C'est comme l'amour quand c'est à ce niveau-là. Et ils l'ont vraiment éprouvé et ils en portent la nostalgie.
Mais pourquoi un mariage, ça devrait être heureux ? Pourquoi ?
n'éprouve plus. Je n'éprouve presque plus rien, d'ailleurs. Je l'aime. Elle est mon unique amour.
Je suis vraiment ta fille.
Tu es la fille d'un grand amour.
C'était Agnès de Sassy au micro de Cinérama pour le film La fille d'un grand amour en salle depuis le 8 janvier. La place d'une femme dans la famille est remise en question à la mort du conjoint. Nous parlons de Tout ira bien.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Pour son quatrième film, Ray Young s'intéresse encore à l'homosexualité chez les personnes âgées. Un sujet de niche, hein, comme c'était déjà le cas dans sa précédente réalisation, Un printemps à Hong Kong, avec un duo d'hommes dont il explorait la rencontre, les mécanismes de la naissance de leur relation entre seniors. Ici, il s'agit de deux femmes, lesbiennes sexagénaires, Angie et Pat, et non d'un début d'idylle, mais bien d'une fin tragique, puisqu'après plus de 30 ans d'union, l'une d'entre elles décède abruptement. Laissant ainsi sa partenaire dans un deuil impossible, alourdi de l'immense charge bureaucratique et des considérations familiales et financières qui se posent concernant l'héritage de Pat, à laquelle Angie n'était pas officiellement liée par les liens du mariage. Rappelons que la législation hongkongaise ne reconnaît pas les relations entre personnes de même sexe qui ne sont autorisées ni à se marier ni à conclure la moindre forme d'union civile officielle. Tout ira bien s'ouvre sur une première partie ancrée dans un quotidien plutôt doux où tout va bien entre Angie et Pat, couple lesbien qui vit dans un joli appartement dans un quartier agréable de Hong Kong où elles jouissent d'une vie paisible et affectueuse. Elles sont intégrées dans une communauté où elles entretiennent de bons rapports avec toute une trame sociale, hein, de leur couple d'amis homosexuels aux vendeurs de marché ainsi que leur propre famille où leur relation est plus que tolérée. En fait, ce n'est même pas un sujet. Lorsqu'elles les reçoivent à dîner, les retrouvailles sont chaleureuses, les deux sexagénaires pétillantes ont un rôle central, elles sont respectées, admirées et de par leur situation favorable, elles aident également leurs proches, notamment financièrement. Leur famille, c'est celle de Pat, surtout. Hein. Il y a le frère de Pat, Shin, et sa femme qui ont deux enfants, un fils et une fille qui, elle-même, a deux enfants. Et tout va bien, sauf que la mort de Pat, juste après le repas de famille, va fracasser l'équilibre et la tolérance de façade. En l'espace de quelques jours, Angie est rétrogradée au rang de meilleure amie pour sa belle famille et sans testament, laissée par sa compagne, tout lui échappe peu à peu. Elle n'a plus la possibilité d'exaucer les dernières volontés de Pat, notamment quant à la manière de disposer de ses cendres. Et ce n'est pas tout, même son droit à vivre dans leur appartement acheté ensemble est menacé. Ray Young ne s'arrête pas à un simple portrait de l'injustice juridique ou à une critique de l'homophobie institutionnalisée. Certes, il développe avec délicatesse les thèmes du deuil, de l'invisibilisation des concubins et plus encore lorsqu'il s'agit de couples homosexuels. Il filme frontalement cette violence silencieuse et fait de son film un plaidoyer subtil pour l'égalité. Mais la situation dramatique d'Angie est mise en parallèle avec celle du frère de Pat, Shin, le légataire officiel. Frustré par une vie de désillusion et d'opportunités manquées, Shin est un espèce de patriarche déchu qui tout d'un coup voit dans la situation qui se présente une opportunité de reprendre le contrôle, celui de s'approprier les honneurs de sa sœur décédée et au passage de récupérer une partie de son patrimoine, évidemment. Ainsi, le cinéaste inscrit cette lutte déséquilibrée dans un contexte beaucoup plus large. Hein. Il n'y a rien d'innocent à ce que cette dépossession se déroule à Hong Kong, un territoire autrefois symbole de pluralité et de liberté, progressivement uniformisé sous l'influence du régime chinois depuis la rétrocession de Hong Kong en 97. Le registre est plus feutré que dans Parasite, mais la critique des mécanismes d'effacement des minorités n'en est pas moins acerbe. Bon là, on troque la société capitaliste de Parasite pour le communisme de Xi Jinping dans Tout ira bien, mais les deux films, chacun à leur manière, nous rappellent que les violences systémiques trouvent souvent leurs manifestations les plus brutales dans la sphère intime, hein, là où elles devraient être le moins tolérées. Dans ce tableau d'une cruauté implacable, Ray Young livre une chronique douce amère, plus qu'un récit intime, hein, c'est une réflexion poignante, sur l'effacement des marges et un appel discret mais puissant à défendre la pluralité, l'individualité et l'amour, hein, face aux mécanismes de contrôle. Et puis il nous adresse peut-être aussi un petit message plus personnel, hein, celui de penser peut-être enfin à le rédiger, hein, ce testament, à ne pas oublier nos concubins et concubines, parce qu'on ne sait jamais.
Ça dépend des pays en plus. Voilà. Tout ira bien est en salle depuis le début de l'année. Les aventures de Wallace et Gromit ne sont plus au cinéma mais sur Netflix, mais ça ne nous empêche pas d'en parler.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Pezas McGro. Vous avez été déclaré coupable de tentative de cambriolage du diamant bleu. Sans l'intervention de deux citoyens intègres, vous auriez mené à bien votre plan machiavélique.
Alors difficile de faire une suite à non seulement la plus réussie des aventures d'un duo, mais également de succéder à un film ayant gagné entre autres le très mérité Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1994. Alors lourde tâche certes, mais ce n'est pas la première fois que les studios Aardman font une suite à la trilogie de court-métrages de Wallace et Gromit classique hein, des années 90, c'est-à-dire Une grande excursion, Un mauvais pantalon et Rasé de près. Rappelez-vous, hein, après le grand succès du long-métrage Wallace et Gromit, Le mystère du lapin-garou en 2005, Nick Park avait réalisé un sacré Pétrin qui marchait dans la lignée de Rasé de près et avait lui aussi connu la reconnaissance du grand public.
Je ne comprends pas pourquoi mes propres nains s'en prendraient soudain à moi.
Une énorme flambée de cambriolage.
Où sont mes outils?
Où est mon abri de jardin?
Et où sont mes lunettes? Oh, elles sont sur ma tête.
Il y avait matière à se réinventer dans la continuité bien balisée et, il faut bien le dire, déjà terriblement efficace. Alors efficace car en Wallace et Gromit, c'est une série de codes de comédie à la fois so-british et totalement universelle qui emprunte un peu partout au meilleur de l'humour cinématographique et au slapstick. Alors en réalisant cela, on comprend pourquoi Un mauvais pantalon est le meilleur film de la saga car il est tout simplement le plus directement affilié au cinéma burlesque des origines. L'exemple le plus révélateur est bien évidemment le méchant du film, Feathers McGraw, qui est muet et dont tout passe par ses expressions faciales, paradoxalement réduite à néant, si ce n'est ses petits yeux noirs, noirs comme l'enfer. Et c'est là que la touche d'humour britannique nonsensique vient parfaire ce portrait implacable et irrésistible. Ce pingouin a la forme d'une quille de bowling, se fait passer auprès des autres pour un poulet, et l'illusion est totale pour l'ensemble des protagonistes, sauf pour le spectateur, lorsqu'il se coiffe d'un gant de toilette rouge. Bref, c'est profondément génial, et c'est donc pourquoi on se demandait ce que cette palme de la vengeance allait apporter comme eau au moulin, même s'il y a toujours moyen de faire des suites pertinentes, et en sachant que de toute façon, les programmes consacrés à Wallace et Gromit ne sont jamais bien longs si on met de côté le long métrage cinéma, Le mystère du lapin-garou. Alors certes, Sacré Pétrin était déjà moins bien que la sainte trilogie précitée et l'association du studio Aardman avec DreamWorks n'avait pas fait d'étincelle, mais nous étions nombreux à y croire encore, tout simplement parce que Nick Park, lui, y croit encore.
Du ciel, c'est vous encore. C'est la palme de la vengeance.
Alors sur l'aspect référentiel, c'est du tout bon. Les clins d'œil à Mauvais Pantalon sont légion et bien intégrés, au point même où un gros rebondissement de l'intrigue revient sur la conclusion du précédent film, et les autres productions ne sont pas laissées pour compte. On y retrouve quasiment tout ce qui fait le sel des aventures de l'iconique duo, et même peut-être trop pour les fans de la première heure. Car si la palme de la vengeance est réussie et compose un excellent divertissement, il ne sera malheureusement pas vraiment surprenant, car sa structure en fait une sorte de quasi-remake d'un Mauvais Pantalon, un peu à l'image de toutes ces suites et reboots que l'on consomme depuis 15 ans à Hollywood. Alors voilà, c'est encore dépassé par une invention qui devait à la base l'aider lui et son fidèle Gromit. Gromit qui est remplacé par cette invention et elle va devoir être domptée pour que le cerveau du crime qui s'en est emparé ne parvienne à ses fins. Alors seule petite originalité, un commentaire bienvenu et totalement d'actualité sur les intelligences artificielles qui ne remplaceront jamais le génie humain ou chien qui est mis en avant avec ces gnomes devenus criminels à cause du pingouin poulet maléfique. On sent là un petit message adressé à Nick Park, à tous ceux qui voudraient enterrer son art de la stop motion, art manuel et artisanal par excellence, face à l'uniformisation lénifiante du monde, et surtout du monde de l'animation et des arts. Alors la palme de la vengeance plaira beaucoup aux plus jeunes, satisfera plus les moins jeunes que l'insipide suite de Chicken Run du même studio sorti récemment sur Netflix et est assurément l'un des excellents divertissements de ce début d'année.
Voilà, c'est Gromit est donc programmé sur la plateforme Netflix.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Et toi, Guillaume, tu auras vu le grand vainqueur du festival d'animation d'Annecy.
Oui, c'est Mémoire d'un escargot.
Et puis toi, tu auras une interview, Sophia.
Oui, Vincent, j'aurai l'interview de David Holofernes pour le quatrième mur.
Et avec un peu de chance, ce menu, tu auras vu...
Peut-être le Almodovar, et puis je vais vous parler du nouveau film de Jazanke, Les Fleurs Sauvages.
À la semaine prochaine.
This is Cinerama. Cinerama. Cinerama.